Mediapolis, au cœur de l'histoire des médias. Mediapolis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mediapolis, l'atelier qui vous plonge au cœur de l'histoire des médias. Nous sommes
Lucas,
Marine
et Lola, trois étudiants en licence 3 information communication à l'université Bourgogne-Europe. Et nous sommes ravis de partager avec vous nos recherches et réflexions sur l'évolution de l'information et de la désinformation au fil des siècles.
Aujourd'hui, pour ce premier atelier, nous allons remonter le temps et explorer ensemble comment les médias ont façonné notre rapport à l'actualité entre vérité et fake news. Nous allons nous pencher sur l'évolution des supports médiatiques et l'influence qu'ils ont eue sur nous, la société, pour mieux comprendre comment l'information se transforme parfois en désinformation.
Embarquons ensemble pour ce voyage à travers l'histoire des médias.
À l'origine, la transmission de l'information se faisait oralement. Les conteurs, les crieurs publics, mais aussi les messagers itinérants étaient les acteurs clés de cette communication. Il faut imaginer des marchés, des places publiques où l'information circulait principalement sous forme de rumeurs et de récits.
Mais l'arrivée de l'écriture a radicalement changé la donne. Dès la Mésopotamie, avec les premières tablettes d'argile, ou en Égypte, avec les papyrus, les informations se sont peu à peu enregistrées et transmises de façon plus permanente.
Puis la Grande Révolution, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1454, c'est le moment où l'information devient plus accessible, car elle peut désormais être reproduite en masse, et cela ouvre notamment la porte à la presse écrite, mais aussi aux premières formes de manipulation de l'opinion publique.
Effectivement, dès le début, les fausses informations circulent. Par exemple, des pamphlets de propagande, souvent politiques ou religieuses, circulaient pour influencer les masses.
Un exemple fascinant, au Moyen-Âge, des fausses accusations de sorcellerie ont circulé grâce à des rumeurs et des écrits. Cela montre que même à cette époque, l'information pouvait être manipulée pour semer la peur et influencer les comportements.
Et n'oublions pas qu'avec l'imprimerie, la diffusion massive d'informations ne concerne pas seulement les vérités, mais aussi les fake news. Le processus de vérification des faits, tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'existait pas.
Au XIXe siècle, avec l'essor de la révolution industrielle, la presse écrite devient un pilier fondamental. Les premiers grands quotidiens se multiplient.
Cependant, cette explosion médiatique s'accompagne de la naissance de Canard, ces journaux qui publient des fausses informations sensationnalistes pour vendre davantage. Un des exemples les plus célèbres, le Great Moon Hoax, en 1835, où un journal new-yorkais affirmait que la Lune était habitée par des créatures ailées. Cela a captivé le public pendant des semaines.
On voit donc ici que la presse écrite, malgré ses bienfaits en matière d'accès à l'information, a également servi à semer la confusion, la crédibilité des sources n'étant pas toujours un critère essentiel.
Au XXe siècle, un autre média prend le relais, la radio. Le premier programme radiophonique a eu lieu aux États-Unis en 1920, et très vite la radio devient un média de masse avec un pouvoir de diffusion et d'influence énorme.
Mais tout comme pour la presse, la radio a aussi été utilisée à des fins de manipulation. La propagande naziste sur Radio Paris, par exemple, a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. De même que l'opération Fortitude des Alliés, une fausse campagne d'intoxication avant le débarquement de Normandie.
Et n'oublions pas un autre exemple marquant, la diffusion radiophonique de la Guerre des Mondes d'Orson Welles en 1938, qui a provoqué une panique massive puisque les auditeurs pensaient qu'une invasion extraterrestre était réellement en cours, alors qu'il s'agissait d'une lecture de livre. C'est un parfait exemple de l'impact d'une rumeur diffusée via un média de masse. Après la Seconde Guerre mondiale, la télévision s'impose comme le média dominant. Elle transforme en profondeur notre rapport à l'information. En 1969, un événement historique, l'alunissage d'Apollo 11, est suivi en direct par des millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un moment qui incarne à la fois la puissance de la télévision et l'image en direct, en couleur, et crée une connexion immédiate et émotionnelle entre l'événement et les spectateurs. L'information n'est plus simplement rapportée par écrit, mais vécue en temps réel. Cet événement a marqué un tournant car il a à la fois montré la capacité de la télévision à rendre un moment historique et universel tout en restant accessible à une échelle mondiale.
La télévision a introduit un autre changement majeur. L'image devient un moyen de manipulation puissant. Avant, l'information était surtout écrite et le spectateur avait un certain contrôle sur la manière dont il consommait les informations. Mais avec l'arrivée de la télévision, tout change. La manière dont une image est cadrée, montée et présentée peut modifier l'interprétation d'un événement. La télévision a donné aux journalistes et aux producteurs de contenu un pouvoir énorme, celui de contrôler la narration visuelle. Par exemple, un même événement peut être montré sous un angle très différent selon le choix du plan, de la lumière ou du montage. Cela peut avoir un impact colossal sur la perception de ce qui est montré. Le spectateur, en l'absence de nombreux repères ou sources alternatives, peut facilement se laisser influencer par l'émotion véhiculée par l'image, en oubliant parfois la réalité des faits. Un exemple marquant de cette manipulation visuelle, les images diffusées pendant les guerres, ou encore des événements politiques qui ont fait l'objet de mises en scène ou de montages pour manipuler les opinions publiques.
Exactement, Marine, un des exemples les plus flagrants de manipulation visuelle se trouve dans les images diffusées lors de la guerre du Golfe en 1991. Un cas emblématique est l'histoire du bébé retiré de la couveuse qui a été diffusée largement à la télévision, choquant des millions de téléspectateurs. Cette image montrant des bébés prématurés prétendument retirés de couveuse par des soldats irakiens a été utilisée pour appuyer les arguments en faveur de l'intervention militaire de la coalition menée par les États-Unis en Irak. Cependant, il a été révélé plus tard que cette histoire avait été montée de toutes pièces par une entreprise de relations publiques liée à la famille royale du Koweït. Cette histoire a été menée dans le but de susciter de l'indignation et justifier justement l'intervention. Cette image donc a été utilisée comme une arme de manipulation. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu, mais un exemple de la puissance des images et de la manière dont elles peuvent être utilisées pour induire en erreur un large public et manipuler les émotions collectives.
Et c'est là que l'on voit l'ambivalence de la télévision. En apportant une immédiateté visuelle sans précédent, elle a aussi permis la propagation de théories du complot. Si l'on reprend l'exemple de l'alunissage de 1969, dont l'image de Neil Armstrong posant le pied sur la Lune est gravée dans la mémoire collective. Pourtant, peu après cet événement, certaines voix ont commencé à affirmer que cet alunissage était une mise en scène. Des théories ont émergé, soutenant que les images avaient été filmées dans un studio, que la NASA avait falsifié les preuves pour prendre une avance sur l'Union soviétique pendant la guerre froide. Ce type de théorie du complot, alimentée par des images et des vidéos, qui parfois semblent floues ou inexpliquées, continue de nourrir des débats sur la véracité d'événements majeurs. L'exemple de l'alunissage a donc ouvert la voie à une série de remises en question systématiques où chaque grand événement, historique ou scientifique, est désormais sujet à des doutes.
C'est un phénomène qui perdure encore aujourd'hui, où chaque événement majeur semble être accompagné d'une multitude de théories sur sa véracité. Prenons l'exemple des attentats du 11 septembre 2001. De nombreuses personnes croient encore que cet événement n'a pas été le fruit d'une attaque terroriste, mais d'une conspiration du gouvernement américain. Mais la multiplication des vidéos et des images sur les réseaux sociaux aujourd'hui permet de nourrir ces doutes et de rendre ces théories de plus en plus populaires, malgré l'absence de preuves tangibles.
Il faut aussi considérer un autre aspect, l'impact de la télévision sur la perception de l'événement dans le temps. De nombreuses théories du complot, comme celles concernant donc l'alunissage ou le 11 septembre, s'appuient sur des images ou des vidéos qui ont été vues à une époque où la technologie de diffusion n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Par exemple, le fait de revoir les images de l'alunissage avec les technologies actuelles peut éventuellement éveiller des doutes là où il n'y en avait pas avant. L'enjeu ici est que les images, surtout quand elles sont coupées ou sorties de leur contexte, peuvent alimenter des interprétations qui déforment la réalité.
La télévision a donc apporté à la fois des possibilités incroyables pour partager des événements en direct et offrir une immersion totale dans l'actualité, mais elle a aussi donné naissance à de nouvelles formes de manipulation, notamment à travers les images. Et aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde saturé d'images et de vidéos, il est essentiel de se rappeler que l'image n'est pas une vérité en soi. Une image, une vidéo ou un reportage peut toujours être manipulé. Nous devons donc apprendre à analyser ces événements visuels avec un regard critique, car la vérité ne réside pas uniquement dans ce que nous voyons à l'écran, mais dans le contexte et les informations qui l'entourent.
Avec l'avènement d'Internet dans les années 90, le monde de l'information a connu une véritable révolution. En quelques clics, tout devient accessible. La promesse de l'Internet était d'offrir une liberté d'accès à la connaissance sans précédent. Mais ce qui a changé radicalement, c'est la vitesse à laquelle l'information circule. Non seulement les bonnes informations, mais aussi les fausses. La facilité avec laquelle des rumeurs se propagent est devenue un véritable problème. Un des premiers exemples marquants de cette désinformation à l'ère d'Internet fut la panique générée par la rumeur du bug de l'an 2000. Ce bug censé entraîner des catastrophes informatiques mondiales à minuit le 1er janvier 2000 a mis les gouvernements, les entreprises et des millions de citoyens dans une situation de panique pendant des mois. Pourtant, bien que ce bug soit largement exagéré, l'information fausse s'est propagée à une vitesse incontrôlable alimentée par les forums et les chaînes de mails. Ce n'était que le début de ce que nous connaîtrons plus tard avec les réseaux sociaux.
Effectivement, et c'est aujourd'hui encore plus frappant, les réseaux sociaux ont exacerbé ce phénomène. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ces plateformes sont devenues des canaux de diffusion d'informations où la vitesse prime sur la vérification. Si une rumeur commence à circuler sur Twitter ou une vidéo sur Facebook, elle peut devenir virale en quelques heures, voire en quelques minutes. Prenez l'exemple de la rumeur concernant les vaccins. Des publications erronées, souvent accompagnées de vidéos non vérifiées ou d'images manipulées, peuvent se répandre comme une traînée de poudre, incitant de nombreuses personnes à prendre des décisions de santé basées sur des informations incorrectes. Une étude a révélé que les fake news se propagent en moyenne 70% plus vite que les informations vérifiées sur Twitter. Et cela a des conséquences bien réelles. Une étude menée par l'université de Harvard a estimé que les fake news liées à la vaccination ont contribué à l'augmentation des mouvements anti-vax dans de nombreuses régions du monde.
Cette rapidité avec laquelle les informations se propagent sur les réseaux sociaux a fait naître un phénomène que certains chercheurs appellent la post-vérité. C'est une époque où l'émotion, la subjectivité et l'opinion priment sur les faits et les vérifications. Cela a été particulièrement évident lors des élections américaines de 2016. Des milliers d'articles et de posts circulaient, fabriqués pour manipuler l'opinion publique. Ces informations, souvent fausses ou délibérément déformées, ont influencé le débat public. Et certaines fausses informations ont été perçues comme plus crédibles que des faits vérifiables. Les algorithmes des plateformes qui favorisent le contenu émotionnel et sensationnaliste n'ont fait qu'amplifier ce phénomène. Une étude du MIT a révélé que les fake news ont un taux de partage 70% plus élevé que les nouvelles vérifiées.
Les réseaux sociaux sont devenus des foyers de désinformation et sont utilisés non seulement par des individus, mais aussi par des groupes politiques, des entreprises et même des gouvernements pour diffuser des messages et manipuler l'opinion publique. Un exemple marquant de manipulation numérique à l'échelle mondiale est celui de la campagne de désinformation russe durant les élections américaines de 2016, où des milliers de bots et de comptes automatisés ont propagé des fausses informations. Mais ce phénomène n'est pas isolé. Les fausses informations liées à la pandémie de Covid-19 ont également fait le tour du monde à une vitesse ahurissante, semant la confusion et freinant les efforts de santé publique.
C'est là que la vérification des faits devient cruciale. Mais comment, dans un monde où la formation circule si rapidement, pouvons-nous séparer le vrai du faux ? De plus en plus de sites de fact-checking comme Polyfact, Le Monde des Codex ou encore AFP Factuel ont vu le jour pour contrer la désinformation. Mais la tâche est gigantesque. D'un côté, la facilité de publier et de partager sur les réseaux sociaux favorise une information non vérifiée, tandis que de l'autre, il est de plus en plus difficile de freiner l'immense flux d'informations en ligne. Même des plateformes comme Facebook et Twitter, qui ont reconnu la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, n'ont pas encore trouvé de solution parfaite pour endiguer le phénomène.
Ce défi est amplifié par l'émergence de technologies avancées, comme l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, qui permettent de créer des vidéos et des images hyper réalistes. Par exemple, avec les deepfakes, des vidéos peuvent être modifiées pour faire dire ou faire à des personnes des choses qui n'ont jamais eu lieu. Cela ajoute une couche de complexité à la question de la vérification, car même les preuves visuelles peuvent désormais être fabriquées avec une grande précision.
En effet, c'est un véritable défi pour les citoyens, car dans cette ère numérique, plus que jamais, il est indispensable d'avoir un esprit critique. Les réseaux sociaux ont démocratisé l'accès à l'information, mais cette ouverture a aussi permis une explosion des fake news. Pour contrer cela, chacun d'entre nous doit apprendre à questionner les sources, à chercher des confirmations sur des sites fiables et à ne pas se laisser emporter par la vitesse de diffusion de l'information.
Ce n'est pas qu'une question d'individu. Il est également essentiel que le gouvernement, les entreprises de technologie et les plateformes numériques prennent des mesures pour empêcher la propagation de fausses informations. Les régulations sur la publicité politique, les algorithmes de recommandation et les partenariats avec des vérificateurs de faits sont autant des leviers sur lesquels il faut agir. L'avenir des médias ne réside pas seulement dans la technologie, mais aussi dans la responsabilité collective pour garantir que l'information que nous consommons soit vérifiée, éthique et fiable.
Voilà, c'était Mediapolis, une première plongée dans l'histoire des médias et de la désinformation.
Comme nous l'avons vu, chaque nouvelle technologie a apporté des possibilités incroyables, mais aussi de nouvelles formes de manipulation. De l'imprimerie à Internet, le pouvoir des médias est indéniable et la désinformation a toujours fait partie de ce paysage.
Aujourd'hui, nous devons être plus vigilants que jamais. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, ces technologies vont encore complexifier la manière dont les fake news se propagent.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel atelier. Et n'oubliez pas, l'histoire des médias continue, et nous aussi.
Mediapolis, au cœur de l'histoire des médias.